Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi comme tous les jours. C'est de midi à 15h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi aujourd'hui, il y a d'abord Paul Lassen, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Qui a potassé, qui a bossé ce matin tous les sujets pour tout nous expliquer, pour qu'ensuite on puisse débattre ensemble. Et on débattra notamment avec Frédéric Hermel, journaliste RMC. Salut Fred.
Qui a bossé aussi ce matin. Hein.
Ah bon?
Bah, j'arrive pas comme ça, les mains dans les poches et les mains dans les bretelles. Hein. Bah, si. Attention.
Ah bon? Emmanuelle Dancourt, qui est née bosseuse. Emmanuelle Dancourt, journaliste indépendante. Salut Emmanuelle.
Salut.
Et puis Pierre-Édouard Magnan, président de l'association Chômeurs et Précaires, et je ne ferai pas de commentaires. Hein? Emmanuel Macron.
Il n'a pas besoin de bosser, Pierre-Édouard. C'est la science infuse.
Nous, c'est le non-travail militant.
Emmanuel Macron affirme qu'une victoire des extrêmes aux législatives mènerait à la guerre civile. A-t-il raison? Ce sera notre premier débat et vous nous appelez donc au 32-16. À 12h30, le RN veut interdire les postes stratégiques aux binationaux, les réserver à ceux qui sont uniquement citoyens français. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? À 13h, faut-il rétablir les pertes de points pour les petits excès de vitesse? Vous savez, c'est 52, 53, 54 km par heure en agglomération. Ça a été supprimé depuis le 1er janvier, volonté de Gérald Darmanin, sauf que la prévention routière dit que ça coûte des vies. Et à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, trop de lessive. Oui. On fait trop de lessive, c'est très polluant, ça coûte cher.
C'est clair.
Sommes-nous devenus maniaques? Fred, on en parlera notamment. Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qui ne font pas manquer aujourd'hui. Plus blanc que blanc, Fred.
Ah, d'accord, c'est pour ça. Je pensais que c'était l'odeur.
Le nouvel odeur.
Allez, on y va.
RMC, Estelle Midi.
La menace du jour, une menace d'une guerre civile. Brandi par Emmanuel Macron en cas de victoire des extrêmes législatives. Paul, le chef de l'État, le dit dans une interview diffusée sur X, ex-Twitter.
Oui, et le président ne fait pas de distinction, Rémi. Les deux programmes mèneront à la guerre civile, c'est dit. Si on en doutait, Emmanuel Macron est bel et bien en campagne. Alors, dans un podcast d'une heure et demie qui a été diffusé hier, le président s'en est donc pris à ses deux adversaires directs. Le RN, d'un côté, la réponse de l'extrême droite en matière d'insécurité parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou à une origine, elle divise et elle pousse à la guerre civile, dit le chef de l'État. De l'autre côté, la France insoumise, qui d'après lui propose une forme de communautarisme un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière, parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance ou religieuse ou communautaire, dit le président, qui ajoute « Je pense que c'est un danger et c'est pour ça que je pense que le RN et LFI répondent à des vrais problèmes, des vraies colères, des vraies angoisses. » Celle de la personne qui se dit « on ne répond pas à mon problème de sécurité » ou encore celle qui dit « je ne suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman », ça c'est ce qu'estime Emmanuel Macron. Ils répondent mal à ces questions à mes yeux en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Voilà comment conclut le chef de l'État.
Pour Emmanuel Macron, une victoire des extrêmes aux législatives mènerait à la guerre civile. Est-ce qu'il a raison? Vous nous appelez au 32-16. Fred, il a raison?
C'est les vieilles recettes de toujours en fait. Le loup, attention, attention. Emmanuel Macron s'est notamment fait réélire sans faire campagne en 2022, en disant la peur, en jouant sur la peur du RN, la peur du fascisme, la peste brune, etc. Là, maintenant, il y a la peste rouge aussi, puisqu'il y a LFI, enfin, le nouveau Front Populaire. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que quand j'ai entendu le président prononcer cette phrase, je me suis souvenu de feu Gérard Collomb, qui avait été son ministre, et l'un de ses principaux soutiens depuis le début du macronisme, qui avait, en quittant le ministère de l'Intérieur, avait dit « Nous sommes côte à côte et bientôt nous serons face à face ». Et oui, il y a dans notre pays, par moments, des senteurs de guerre civile. Voilà, on a vu ce qui s'est passé avec les émeutes. On a encore vu, par exemple, du côté de Lyon, il me semble, une école saccagée par deux gamins. Enfin, il y a...
Enfin, c'est pas la guerre civile.
Excuse-moi, quand on s'en met à brûler les écoles...
Oui.
Tu vois, donc, il y a ça. Après, la situation de chaos qui risque de naître là, le 7 juillet au soir ou le 8 juillet au matin, c'est Emmanuel Macron qui l'a provoqué en prenant cette décision grave et risquée de dissoudre l'Assemblée. Voilà, enfin, c'est-à-dire en gros, j'aime pas.
Il aurait mieux valu rester comme ça.
Bah, il fait ce qu'il veut. Il a le pouvoir de le faire.
Je te pose
une question. Le problème, c'est que s'il se passe quelque chose, c'est son choix. C'est sa décision, erronée ou non. C'est-à-dire que si nous avons demain une majorité absolue du Rassemblement National, si nous avons une majorité absolue du Nouveau Front Populaire, si nous avons un pays totalement ingouvernable, ce sera directement lié au fait que le président de la République, Emmanuel Macron, a choisi de dissoudre l'Assemblée, alors que rien ne le poussait à dissoudre l'Assemblée.
Est-ce qu'il joue avec le feu ?
Oui, clairement. Il espérait un électrochoc qui pourrait lui permettre de reprendre la main. On en est loin quand même.
Je vais demander à Emmanuel Dancourt. Oui. Emmanuel Dancourt, est-ce que tu penses que ce que dit Emmanuel Macron, le risque d'une guerre civile si le RN l'emporte, ou si Nouveau Front de Gauche l'emporte, ou alors même si le pays devient ingouvernable, est-ce que elle est réelle, cette menace de guerre civile ?
Non, mais une guerre civile, il faut quand même juste rappeler la définition, ce sont des citoyens contre les citoyens d'un même pays. Pour l'instant, c'est pas ça qui s'est passé. Même les gilets jaunes, qu'on aurait pu assimiler une guerre civile, c'était pas ça. C'était des citoyens qui s'exprimaient, puis en face, t'avais les forces de l'ordre, quoi. Mais on n'a pas vu sur les ronds-points des gilets jaunes contre, par exemple, des gilets rouges.
C'était chaud,
mais c'était pas une guerre civile. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, et tu as raison de rappeler que c'est dans les, quand on dit dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est ça. C'est très très vieux. Le général de Gaulle avait dit le chaos ou moi. Giscard d'Estaing, dans les années 80, début des années 80, avait dit que les chars de la Russie allaient envahir la place de la Concorde si François Mitterrand était élu. Et puis maintenant, on nous a parlé de guerre au moment du Covid. On nous a parlé à nous les femmes de réarmement démographique. Là, on nous parle de Saint-Barthélemy quand même. Je sais pas si vous l'avez entendu parler de Saint-Barthélemy, qui est quand même une guerre, c'était une guerre religieuse, les protestants massacrés, protestants massacrés par des catholiques.
Les Français contre des Français.
Donc voilà, il a un vocabulaire qui est emphatique, qui est avec des superlatifs pas possibles, à manier les peurs.
Ce qu'il dit aussi, parce que, excuse-moi Emmanuel, mais il parle des programmes des deux partis, c'est-à-dire du RN et de la coalition Nouveau Front de Gauche. Clairement, il dit aussi, si jamais le RN arrive au pouvoir, si jamais le Nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, s'ils appliquent leur programme, le pays va sombrer et là, ça va mener à la guerre civile.
Si le RN arrive au pouvoir, il y aura un problème. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir entrer en résistance et qui vont avoir du mal sur une élection démocratique, on l'entend, qui vont avoir du mal à accepter le verdict. Si c'est le Nouveau Front Populaire, c'est pas le Nouveau Front Populaire le problème, c'est Mélenchon. C'est lui dont tout le monde essaie de se débarrasser parce que c'est lui l'incendiaire de ce côté-là. Voilà, mais en fait, nous on parle des législatives là, mais il faut se projeter. Ils sont tous en train de se projeter une élection plus loin. Ils ont tous quelque part intérêt à ce qu'il y ait le chaos, puisque ça pourrait accélérer les élections présidentielles. Ils sont tous en train de se projeter sur les élections présidentielles. Il faut qu'on dézoome absolument pour comprendre ce qu'ils ont tous dans leur tête, les trois principaux partis. C'est ça qui se passe actuellement.
Pierre-Edouard Magnan, est-ce que tu crains une guerre civile ?
Oh, je sais pas, peut-être la peste, le choléra et les sauterelles aussi, pour faire un ensemble. Les sept plaies d'Égypte, exactement. En plus, on était dans les religions, ça tombe bien. En plus, c'est dans l'Ancien Testament, comme ça, c'est valable pour tout le monde. Je pense qu'il faut, d'abord, je pense que ce qu'il dit est fondamentalement ridicule. C'est-à-dire que le 8 juillet, vous n'allez pas avoir deux France qui vont faire des barricades et qui vont se tirer dessus, d'abord avec quoi, parce qu'on a quand même moins d'armes dans notre pays qu'ailleurs. En plus, c'est les vacances. Je le dis avec un brin d'humour, mais on sait bien que les vacances, les Jeux Olympiques qui vont arriver, enfin, vous allez voir que le 8 juillet, en fait, vous savez que l'on va se réveiller le 8 juillet, un peu comme on s'est réveillé le 7. Alors, on aura peut-être, selon nos votes, une gueule de bois.
Oui, voilà.
Mais en tout cas, je veux dire, la France, ça va ni être les chars soviétiques, ni les tractions avant avec des bêtes de la Gestapo. C'est-à-dire, il faut sortir de ce mythe-là, dans les deux cas. Je veux dire, les deux sont aussi ridicules. En plus, en disant ça, d'abord, ça fait 7 ans qu'il nous le fait. Qu'a-t-il fait depuis 7 ans ? Je rappelle qu'en 2017, un de ses grands arguments, c'est de dire avec moi, je vais siphonner les causes du RN. Alors, Sarkozy, c'est je vais siphonner le RN à l'époque, rappelez-vous. Et lui, il a dit, je vais siphonner ce qui fait le vote RN avec moi, il n'existera plus. On voit effectivement le résultat là-dessus. C'est dans les urnes totalement contre-productif. C'est totalement contre-productif dans les urnes parce que ça ne fait que encourager ceux qui sont hostiles à Macron et aujourd'hui, comme le disent, y compris des gens. J'ai entendu Arnaud Robinet, maire de Reims, Horizon, dire que Emmanuel Macron avait une figure repoussante, entre parenthèses, l'ingratitude en politique est toujours aussi bien répandue. Et puis derrière, en plus, c'est extrêmement, sur le fond des programmes, méprisant à l'égard des gens. C'est-à-dire, c'est la liberté des gens de croire dans tel ou tel programme, de considérer que c'est ce programme-là qui est le bon pour eux. Et c'est extrêmement méprisant de leur dire, parce que quand on dit les deux extrêmes, c'est le chaos, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste que moi. Et il dit, ben, en gros, moi, j'ai raison, les autres, en fait, sa vision de la démocratie, c'est que, éventuellement, il tolère que les autres aient tort, mais c'est quand même lui qui a raison. Et ça, en plus, là aussi, je pense que c'est contre-productif. À mon avis, je pense que tous les députés ensemble, puisque c'est à nouveau ensemble que ça s'appelle, rêvent que d'une chose, c'est qu'enfin ils se taisent. Et pour ceux qui sont hostiles à Macron.
Ouais, enfin, tout le monde se désire. Hollande demande à Mélenchon de se taire, certains demandent à Macron de se taire,
donc tout le monde se taire. Emmanuel Macron, maintenant, il s'exprime dans les podcasts, parce que c'est pas comptabilisé en temps de parole. Enfin, je trouve ça dingue qu'on le laisse faire.
Paul, vous êtes nombreux déjà à réagir sur l'application RMC,
oui,
sur Direct Studio.
Oui, celui d'Erwan, par exemple, qui nous dit « Notre président est devenu incompréhensible, voire même dangereux », ça c'est son avis. Et puis Kikou, qui fait une analogie assez marrante. « Je suis enseignant et les pros de Macron me rappellent l'arrivée des vacances. Les gamins ne travaillent plus, la discipline difficile à obtenir. On dirait qu'il est en totale panique et qu'il ne maîtrise plus rien. »
Pour Emmanuel Macron, une victoire des extrêmes aux législatives mènerait à la guerre civile. Est-ce qu'il a raison? Vous nous appelez au 32-16. Pascal est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Bonjour. Dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Pascal, vous nous appelez depuis le département du Gard, c'est ça?
C'est cela, oui, oui.
On est dans quel coin du Gard?
Oh, mais moi j'habite sur Alès. Alès, vous savez, le Gard, c'est étendu, mais les villes, bon, à part Nîmes, bien étendu, mais moi je suis sur Alès. Donc je
d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Pascal?
Pardon ?
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis responsable, enfin, je suis commercial dans la brasserie, tout ce qui est bar, hôtel, restaurant, donc je connais dans la populaire, si vous voulez.
Oui, et puis vous fréquentez pas mal de monde, j'imagine, vous avez l'occasion de discuter avec vos clients, vos collègues. Est-ce que ce que dit Emmanuel Macron, en cas de victoire aux législatives, d'accession au pouvoir des extrêmes, ce qu'il appelle les extrêmes, que ce soit RN ou Nouveau Front Populaire, est-ce que, selon vous, ça peut dégénérer en guerre civile ?
Comme j'ai dit au standard, il oublie qu'il avait déjà été en guerre civile, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, entre parenthèses, ce n'est pas la faute des Gilets jaunes, puisque j'ai été moi-même sur des ronds-points une fois ou deux, parce que je ne suis pas un contestataire comme ça, moi, c'est trop facile. Moi, je me suis retrouvé sur des ronds-points, j'ai vu des retraités, c'est pas les retraités qui ont foutu le bordel, vous le savez très bien. Ouais. Et je peux vous dire une chose, il y avait des gens qui n'avaient pas leur place, là. Mais la police le savait aussi. Vous savez, il y a des renseignements généraux en France, vous connaissez comme moi, hein. Les renseignements généraux, ils rapportent ce qu'ils ont envie de rapporter, monsieur Darmanin, il peut faire le veau, mais on vous rapporte ce qu'on veut, il laisse faire, laissez leur foutre le bordel, on dirait que c'est la faute aux Gilets jaunes. Moi, personnellement, chez nous, on est encore protégés là-dessus, il n'y a pas eu d'émeute. Quand j'ai vu ce qui se passait à Paris, les magasins qui étaient comme ça, pillés, complètement saccagés, c'était un scandale. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand moi, on me vole dans ma maison, si on me vole, je vais pleurer, parce que le lendemain, j'ai plus rien. Et là, ils repartaient la semaine d'après, on les recassait. Personne ne se... Alors je pense que M. Macron, avec la planche habillée, a moyen des sous, bien sûr, pour pouvoir faire voir qu'ils étaient là, qu'ils étaient les gens de la situation. Maintenant, la guerre civile, oui, elle y est là. C'est fait, c'est trop tard. On ne peut plus rien dire, vous le voyez bien. Il y a des gens qui ont voté Rassemblement National. Vous voyez bien, même la gauche, les instituteurs, les professeurs, ces gens-là sont faits normalement pour éduquer les enfants. Et c'est eux qui ont fait la plus grosse politique. Tous les instituteurs que je connais dans les années 80 à 90, parce que maintenant ils sont en train de virer de bord, étaient tous de gauche. Et anti, alors c'était clair. Aujourd'hui, c'est fini, les gens en ont marre, il faut le comprendre. Moi, je suis dans des petites villes, on discute tous les jours, on voit ce qui se passe, on le voit, nous. Les gens ils disent, ils se roulent avec des bagnoles qu'on ne pourra jamais se payer. Que voulez-vous qu'on vous dise? C'est encore de la faute des Français. Et lui, il met tout sur la faute des Français. Je pense que dans ce pays, d'être Français, c'est une tare. Le Français, le bon Français, c'est une tare. Moi, c'est une honte. J'ai un casier judiciaire qui est vierge. Mon père, il était vierge. Et c'était un immigré espagnol. Je m'excuse. Et on nous disait ça en espagnol quand j'étais petit. C'était pas grave. Mais tout ce que mon père m'a appris, mais ça n'existe plus. Et ce monsieur Macron vient nous dire, ça y est, on est en guerre. Mais il y a longtemps qu'on est en guerre. Et par-dessus ça, il voulait nous envoyer en Ukraine, ce monsieur. Et maintenant, il dit qu'il ne veut plus y aller. Il voulait nous envoyer en Ukraine. Qu'il y aille, lui, avec ses petits lieutenants, là, le monsieur qui bouge sa tête derrière les ports. Vous savez, quand je vois Attal, là, qui remue sa tête, ça me fait penser aux petits chiens qu'on mettait sur nos plages arrière dans les années 80, dans les années 70, là, qui remuaient la tête, comme ça, vous rappelez, certainement, si vous... Mais il faut qu'ils arrêtent, qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. Laissons l'argent aux gens qui travaillent. Moi, je travaille, je ne demande pas d'argent à l'État, je n'en veux pas, je suis tout capable de m'assumer avec ma femme et d'assumer mes enfants. Mais qu'ils arrêtent de nous en prendre. Et puis, c'est des sujets que j'ai étudiés hier, parce que je suis très heureux qu'on me donne la parole. J'ai étudié un petit truc très important hier. Vous savez, monsieur le maire a rendu 160 € aux Français par an. Qu'est-ce qu'il est gentil, monsieur le maire. Vous savez combien nous ont pris nos députés nos députés, rien que d'augmentation de frais, dernièrement, c'est 300 euros par mois par député. C'est 177 députés. Combien de sénateurs? 347, 348 à 700 euros. Maintenant, je vais vous dire leur salaire, parce que je l'ai brut, je l'ai regardé. Je suis pas. C'est 7800 pour un député, c'est 7500 et quelques pour un sénateur. C'est bien qu'ils payent des impôts, j'espère qu'ils en payent autant que moi. Moi, je vous le dis en face. Aujourd'hui, avec ma femme, on est deux cadres moyens, nous donnons 12 000 euros d'impôts par an. Voilà, c'est dit, c'est fait, je vous le dis, je
vais
le prouver.
Mais
ils peuvent venir sur
un
plateau quand ils
veulent, tous. On l'entend votre colère, Pascal. On l'entend bien. Merci d'avoir été avec nous, Pascal, qui nous appelle du Gard. Et Sébastien Chenu nous rejoint. Bonjour, Sébastien Chenu.
Bonjour.
Vice-président du Rassemblement National, député sortant du Nord, candidat à votre propre réélection dans le Nord, donc. Sébastien Chenu, vous avez entendu ce que nous dit Pascal, qui nous appelait du Gard. On sait que dans le vote RN notamment, et également dans le vote pour le nouveau Front Populaire, il y a une bonne partie des électeurs qui sont très en colère. Très en colère de, j'allais dire, la classe politique traditionnelle. Je veux parler de ce qu'on a vécu ces dernières décennies, que ce soit Sarkozy, que ce soit Chirac, Mitterrand, si on remonte beaucoup plus loin, ou encore aujourd'hui, alors il y a eu François Hollande, j'allais l'oublier, mais aujourd'hui Emmanuel Macron, il y a une grande déception de la part d'un certain nombre de Français qui se reportent, vous le savez Sébastien Chenu, sur le vote RN, voire sur le vote Nouveau Front Populaire. Si jamais vous accédez au pouvoir, Sébastien Chenu, est-ce que cette colère, elle ne va pas être dangereuse à manipuler quand même? Va falloir l'éteindre, va falloir l'apaiser?
Non, parce que je vais vous dire, si les Français ont de bonnes raisons d'être en colère, parce que ça fait des années qu'on leur vend que lorsqu'ils votent Sarkozy, Hollande et Macron, ils auront des politiques différentes avec des résultats différents et qu'à la fin, ils se retrouvent avec des gens qui mènent les mêmes politiques et qui ont les mêmes conséquences et l'absence et la même absence de résultats. Bah, bien sûr que les Français ont raison d'être en colère. Moi, j'ai voté pendant des années pour Nicolas Sarkozy. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il n'y avait pas de résultats. Donc, je me suis tourné vers Marine Le Pen parce que cette colère, nous la transformons, nous, en espoir. On explique qu'on peut faire une autre politique, des autres mesures qui ont d'autres résultats. Le problème, c'est que pendant des années, ils ont changé d'étiquette les uns et les autres. Monsieur le maire, il était dans tous les gouvernements de droite. Maintenant, il est sous Emmanuel Macron. Ils ont fait les mêmes politiques. Et en fait, il y a la même absence de résultats. Donc, je pense qu'au contraire, cette élection, c'est le retour du politique avec un P majuscule, c'est-à-dire vous changez de politique dans votre pays et vous aurez d'autres résultats. C'est ce qu'on pense.
Malgré tout, Sébastien Chenu, la France, aujourd'hui, beaucoup le disent, c'est une image, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est assez bien vue. C'est comme une cocotte minute. Ça bouillonne de tous les côtés. Il y a un ras-le-bol général. Encore une fois, si vous arrivez au pouvoir, il va falloir réduire le feu. C'est jamais évident de réduire le feu et de satisfaire tout le monde. Quand Emmanuel Macron dit qu'il y a une menace de guerre civile, bon, voilà, je vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Vous ne le serez pas, mais malgré tout, on sait que ce pays, il est en ébullition. En tout cas, il y a une véritable émotion, quand je dis les émotions, c'est la colère, la déception, le désespoir. Ça va pas être, encore une fois, je le dis, qui que ce soit au pouvoir, ça va pas être évident.
Non mais regardez, d'abord nous, on n'a pas de responsabilité dans cette situation.
Non,
on peut nous faire beaucoup de procès, mais pas celui d'avoir des responsabilités. Quand je relisais ce que Gabriel Attal disait lors de son discours d'investiture de Premier ministre, il parlait de désnicardiser la France. Qu'est-il fait? Il parlait de la carte vitale biométrique. Qu'est-il fait? Enfin, je veux dire, ces gens ont passé leur temps à faire croire aux Français qu'ils allaient changer les choses, à leur rendre la vie meilleure et la vie est plus difficile. Donc nous, on n'a pas de responsabilité dans cette situation, mais on propose des pistes, on explique qu'on peut faire autrement, on explique qu'on peut faire des économies dans d'autres domaines, on explique qu'on peut redonner du pouvoir d'achat aux Français, pas par des mesures complètement dingues qui ruineraient le pays. Je veux dire, la France insoumise, entre 150 et 300 milliards d'euros, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur eux, ils vont mettre ce pays par terre. Donc il faut être des gens responsables. On a considéré avec Marine Le Pen que la dette, ça se rembourse, qu'effectivement il y a des politiques qu'on ne peut plus mener, accueillir toute la misère du monde, ce n'est plus possible. Il y a un effort particulier à faire sur la sécurité, puisque tous les chiffres ont explosé en matière d'insécurité. Donc évidemment, on a regardé, on a identifié les problématiques. Maintenant, le président de la République, Bon, d'abord, on ne comprend plus rien de ce qu'il raconte. Enfin, même ses propres amis, Lelache, Darmanin, Édouard Philippe, tout le monde se fait la malle parce qu'ils ont compris que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il fait fuir des électeurs. C'est totalement irresponsable ce qu'il raconte sur l'histoire de guerre civile. Nous, on n'a pas de mesures qui divisent les Français.
Sébastien Chenu, une autre question. Il y a aujourd'hui, ce sont des intentions de vote. Mais il y a une vingtaine de pourcents, 26%, 25% de Français qui se disent souhaiter voter Nouveau Front Populaire. Il y a quand même, en France, un peuple de gauche. Un certain nombre de Français qui ont le cœur à gauche, comme on dit. Comment vous allez les rassurer, eux ?
D'abord, si vous voulez, moi je pense qu'il y a des gens de gauche qui sont très bien et qui pourraient très bien en réalité nous rejoindre sur des mesures auxquelles ils pourraient être attachés, des mesures, j'allais dire, sociales. On va abroger la réforme des retraites, on va abroger immédiatement la réforme de l'assurance chômage de Gabriel Attal. Et sur ça, ils peuvent plutôt nous rejoindre plutôt que de suivre des gens qui, sincèrement, sont en train de parler d'accueillir, de garantir une carte de séjour de 10 ans.
Vous ne craignez pas une réaction violente de leurs parents, en tout cas une vindicative ?
Non. Mais non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre pays qui sont respectueux de la démocratie, qui comprennent qu'à un moment, les Français votent, les Français choisissent. Et moi, d'ailleurs, je dis à tous les gens de gauche, mais rejoignez-nous dans l'effort de reconstruction et de redressement du pays. Vous n'avez rien à faire avec la LFI, ce parti crypto-antisémite. Vous n'avez rien à faire avec des gens fichés. Vous n'avez rien à faire avec des gens qui ont des propositions totalement dingues et violentes et qui remettent en cause de la démocratie. Donc, bien sûr, il y a des gens de gauche qui peuvent encore quelque part se réveiller, qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron parce qu'il les a trahis, il leur a menti, mais qui sont attachés à la justice sociale. Nous, on a un programme qui est fait de justice sociale. On a un programme qui est exigeant, mais surtout d'unité des Français. On ne peut pas diviser les Français dans ce pays. Emmanuel Macron l'a fait avec les gilets jaunes, il y a eu des émeutes dans les quartiers, il a opposé les Français des villes, les Français des campagnes, les jeunes aux vieux, les riches aux pauvres. Ça a été ça depuis 7 ans. Notre pays est terriblement abîmé. Nous n'avons pour objectif que d'unir les Français, redresser le pays, et c'est des mesures qui sont très pragmatiques. On n'est pas des idéologues, on est des pragmatiques.
Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous, vice-président du Rassemblement National, député sortant du Nord, candidat justement à votre propre réélection. Sébastien nous rejoint au 32-16. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, merci bonjour, de nous rejoindre dans SN Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis les Bouches-du-Rhône, c'est ça Sébastien?
Oui, c'est ça.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis gardien de la paix.
Gardien de la paix, très bien. Bon, vous venez d'entendre Sébastien Chenu. Ce qui me frappe, c'est que on a d'un côté un président de la République qui nous dit attention, les Français sont divisés, attention, il y a risque de guerre civile. On a de l'autre côté Sébastien Chenu du Rassemblement National qui dit non, ce qu'il faut, c'est l'unité, l'apaisement. Je trouve que les discours s'entrechoquent. On n'a peut-être pas l'habitude de voir dans ces discours dans ce sens-là, Sébastien, non?
Oui, alors moi, écoutez, premièrement, en 2017, quand M. Macron est passé, j'étais contre lui. Je ne voulais pas de Emmanuel Macron. Mais c'est pas pour ça que je suis allé dehors pour mon mécontentement, pour casser, pour faire de vilaines choses. Non, on a respecté le vote des électeurs. Emmanuel Macron est passé. Moi, j'étais contre lui, mais il est passé. Et je respecte. Je respecte le choix des Français. Maintenant, il va y avoir encore les votes là. Donc, il va falloir respecter le choix des Français. Que ce soit le RN qui passe, il faut pas que ceux du LFI foutent le bordel dans la rue et inversement. Voilà, moi je suis contre ça. Je suis pas d'accord. Il faut respecter le choix des électeurs, tout simplement. Quel que soit le parti qui passera, il faut respecter le choix des électeurs. Mais ça, et moi je suis pour l'apaisement.
Ça, on l'entend ce vœu, Sébastien. Mais est-ce que vous pensez que ça se passera comme ça?
Ben, c'est malheureusement dans une vie, il y a toujours des gens intelligents et des gens pas très intelligents. Ouais, donc, ouais. Moi, je demande à tout le monde, que ce soit n'importe quel parti qui passera, il faut rester dans l'apaisement. Et quoi qu'il arrive, il faut du changement.
Voilà. Merci Macron, Sébastien d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous. Ouais.
Merci beaucoup, Sébastien, qui nous appelait depuis les Bouches-du-Rhône. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Direct Studio, Paul, et puis on va voir le résultat de notre consultation.
Oui, je vais prendre ce message de Gilles pour terminer. Macron est un pompier pyromane, il crée le chaos et après accuse les autres, il ne sait gouverner que par la peur. N'oublions pas qu'il a failli nous amener à la guerre civile avec les gilets jaunes, sans oublier qu'il a voulu envoyer certaines troupes en Ukraine, ce que rappelaient nos auditeurs. Et puis on vous a posé la question, êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron qui dit que si les extrêmes arrivent au pouvoir, cela mènera à la guerre civile? Eh bien non, pour 80%. 40% d'entre vous.
C'est assez net, c'est très net, même à savoir maintenant si les gens sont convaincus qu'il n'y aura pas de, de tension particulière ou si c'est simplement pour contredire Emmanuel Macron, parce que c'est devenu aussi...
Oui, pas possible aussi. Ouais.
C'est aussi, la meilleure c'est garantie aussi. Contre la guerre civile, c'est qu'Emmanuel Macron l'appelle de ses voeux.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, réservée aux citoyens français, ceux qui ont uniquement la citoyenneté française, la nationalité française, les postes stratégiques et donc en exclure les binationaux. C'est ce que promet de faire le RN s'il arrive au pouvoir. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est choquant? Vous nous appelez au 3216 et dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
La suite des salles midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT, la préférence du jour. Préférence nationale accordée aux citoyens français pour occuper les postes stratégiques de l'État, notamment dans le secteur de la sécurité et de la défense. Paul, c'est ce que promet de faire le RN s'il arrive au pouvoir. On exclut donc, ou on pourra en tout cas exclure, les binationaux.
Je vous confirme que les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens et aux nationaux français. Voilà ce qu'a annoncé Jordan Bardella lors de sa conférence de presse hier. Tu l'as dit, Rémi, les secteurs de la sécurité et de la défense ont été évoqués par le président du RN, je le cite. Ce sont des secteurs stratégiques, les réservés aux citoyens français, c'est aussi un moyen parmi d'autres de se protéger de tentatives d'ingérence qui pourraient être orchestrées par des États étrangers. Alors une annonce sans trop de précision sur quel poste stratégique pourrait être concerné pour l'instant, tant et si bien que Marine Le Pen a dû désamorcer dans un tweet publié hier soir suite aux nombreuses réactions politiques. L'ancienne présidente du RN le dit, la restriction ne concernerait que quelques dizaines d'emplois très sensibles dans des postes stratégiques. Cette courte liste serait revue très régulièrement en fonction de l'actualité géopolitique et de ses conséquences pour notre pays. Rien de très clair encore une fois. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a 5 mois, le groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi constitutionnelle qui pourrait permettre l'interdiction d'emplois aux binationaux dans toute l'administration, sans se limiter cette fois aux emplois très sensibles.
Réserver aux citoyens français les postes stratégiques et exclure les binationaux, c'est ce que promet de faire le RN s'il arrive au pouvoir. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est choquant? Vous nous appelez au 3216. Nous avons, ici même, dans ce studio, un binational, une binationale, Emmanuel Dancourt, puisque toi, tu es franco-suisse.
Ouais.
Est-ce que cette proposition du RN, elle te semble logique ou elle est choquante?
Elle n'est pas choquante, elle est scandaleuse. Elle est absolument scandaleuse. C'est ne pas savoir ce que c'est qu'un binational. Et comme l'a très bien dit Paul, et avant d'oublier de le dire, je voudrais le dire, c'est quand même une proposition qui s'est vidée de sa substance quand même au fur et à mesure, parce que si bien Bardella que Chenu, on dit non mais en fait c'est que juste quelques dizaines de postes très haut placés dans les ministères, par exemple de la défense, etc.
Toi tu es franco-suisse
de naissance.
C'est-à-dire ta maman ou papa?
Mon père est suisse, mais d'accord. Toute ma famille paternelle est suisse.
Suisse, d'accord. Et du côté maternel,
suisse et du côté maternel français.
D'accord.
Voilà. Mais c'est ne pas savoir ce que c'est que la binationalité. C'est pas 50% suisse pour moi, ou 50% suédois, ou 50% polonais, que sais-je, et 50% français. C'est, on est 100% français. Et on est 100% suisse. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et cette histoire d'ingérence, bon d'abord, ils vont se cogner face au Conseil constitutionnel, ça passera jamais, il faudrait changer la Constitution, c'est pas possible. Et on parle du secteur public. Dans le secteur privé, la loi du travail interdit ce genre de discrimination. Donc on parle bien de postes dans le secteur public. Mais quand bien même, si on écoute, on se dit, il a peut-être pas tort quand même, Bardella, Chenu, ils ont peut-être pas tort, certains postes très spécifiques dans la défense, il faudrait peut-être les laisser à des franco-français. Mais je suis franco-française. Et il se trouve que je suis accrédité défense comme journaliste. Et je peux vous assurer que pour être accrédité défense, quand vous travaillez dans la défense, soit comme journaliste ou soit comme employé, mais c'est tout un dossier. Il y a une enquête pas possible. Donc, c'est complètement aberrant. Surtout qu'en général, les doubles nationalités sont une vraie richesse. On est sur deux cultures, sur deux pays. Alors on peut se dire, la Suisse et la France, c'est pas très différent. C'est beaucoup plus différent que ce qu'on croit.
Voilà. Les salaires sont différents.
pas que. Non, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus différenciants que la Suisse. Mais cela dit, c'est une véritable richesse. Et on arrive avec tout un savoir et une culture, surtout sur d'autres pays, que les autres n'ont pas. Et moi, il se trouve que mon compagnon est franco-turc. Alors ça veut dire, alors nous, on va virer, hein. Nous, on est mort, quoi. C'est fini. Mais en quoi on serait un danger? Il y a des enquêtes, de toute façon, sur les postes
À haute responsabilité.
À haute responsabilité. On fait des enquêtes sur les gens. Donc on n'est pas un danger, on est plutôt une richesse. C'est scandaleux. Et on est, vous savez combien on est de binationaux? Le dernier chiffre, il est très ancien, il date de 2008, on n'en a pas de plus récent. On est 3,3 millions. On n'est pas si nombreux que ça quand même.
C'est pas mal quand même.
Ouais, c'est pas... sur la population française, on n'est pas si nombreux que ça. Et comme il se chenut tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le reprendre quand on l'avait dans le premier débat, il dit nous on a aucune proposition qui divise. Excusez-moi, Sébastien Chenu, ça c'est au contraire, ça divise beaucoup. Et une fois de plus, c'est ne pas comprendre la richesse de ce que c'est que de venir aussi d'un autre pays.
Pierre-Edouard Magnan, choquant, logique. En même temps, ce que disait, on en a discuté ce matin avec Paul. On le sait que le RN a un peu édulcoré son programme depuis quelques temps,
que ça,
un peu tous les jours. Il y a dans le programme du RN, historiquement parlant, la préférence nationale.
Oui.
Et là, donc, on le sait aujourd'hui, ils l'ont mis un peu de côté. Sébastien Chenu a dit, a réitéré le fait qu'il fallait la préférence nationale. Puis finalement, dans le programme, ça a été un peu mis de côté.
C'est devenu la priorité nationale.
Oui, voilà, c'est la priorité nationale. Parce que le problème, c'est qu'on parlait de constitution. Si on voulait instaurer la préférence nationale en France, il faudrait réviser la constitution. Et pour réviser la constitution, ça ne peut venir que de la part du chef, du président de la République. Donc, bon, on voit mal comment ça passerait. Il n'empêche, est-ce que c'est un moyen un peu de faire une demi-préférence nationale? De passer dans les coins.
C'est à la fois le moyen de faire des signaux à une petite partie de leur électorat, c'est le moyen de respecter leur histoire. Tout ça, c'est, on remonte à l'origine, c'est la France aux Français, qui était le slogan du Front National pendant des années. Alors là, on arrive sur une tête d'épingle, on se dit tous, oh, bah oui, enfin, si c'est trop aux fonctionnaires du ministère de la Défense dans un coin, qui ça va qui concerner. Mais on est toujours dans les fondements de l'extrême droite qui a une particularité, toujours, c'est de catégoriser et de découper en tranches. Les populations, en l'occurrence les Français, mais ça marche pour les extrêmes droites dans tous les pays du monde d'ailleurs. Et de faire, on va le couper en saucisson, puis alors, il y a les bonnes tranches, les mauvaises tranches, puis il y a les tranches qui sont un peu plus et celles qui sont un peu moins. Et donc, on est tout le temps dans cette démarche, donc là, c'est vraiment vraiment le bout du pied dans un petit coin de la porte, genre l'air de rien, puis surtout on fait machine arrière, mais la proposition d'interdire effectivement aux binationaux l'ensemble de la fonction publique, elle est pas si vieille, d'autant que, comme Emmanuel l'a rappelé, la binationalité, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens en droit. Donc ça, cette proposition est une aberration juridique.
C'est-à-dire qu'on est, comme Emmanuel le disait, on est 100% français, à la fois 100% français et 100% suisse.
Parce qu'elle renvoie aux vieux fondements de l'extrême droite dans tous les pays du monde. Il y a des bons citoyens, des bons français, des mauvais français. Moi, je ne connais que des français, je connais même en général que des êtres humains. Et puis, je répète, c'est...
citoyens du monde.
Non, mais il n'y a que des êtres humains. Mais si, parce que si t'es pas universaliste... En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des universalistes et puis il y a le monde des communautaristes et des découpeurs de société. Eux, ce sont des découpeurs de société.
Frédéric Kermel,
alors,
es-tu un découpeur de société?
Non, un coupeur de saucisson régulièrement.
Moi aussi.
Oui, tu vois, parce que ça, oui. Non, en fait, bon, là, petite parenthèse, la préférence nationale, ça existe déjà en France. Oui. Dans la culture. Ça s'appelle l'exception culturelle.
Pour les emplois privés aussi, d'ailleurs. Ouais, tu peux pas embaucher un citoyen étranger n'importe comment.
Non, pour un public, tu veux dire. Un emploi
non,
public.
Dans l'emploi privé. Même dans l'emploi.
Mais de toute façon, et pour se présenter aux élections, il y a des députés. Ouais. Les 577 députés seront tous français. Parce qu'on peut être il faut être français pour se présenter. Donc la préférence nationale, ça existe déjà dans plein de domaines. Simplement, au-delà de la proposition, j'aimerais analyser le fondement et la pensée qu'il y a derrière. Vous avez remarqué quand même que le Rassemblement National fait une campagne très propre, est une campagne très édulcorée.
On a entendu il y a quelques minutes avec Sébastien Chenu, qui appelle à l'unité, au rassemblement.
Bisous,
tout
le monde va s'embrasser à partir du 8 au matin si le Rassemblement National a la majorité absolue. C'est une campagne, comment dire, très politiquement correcte, mais attention quand même, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Parce qu'il y a quand même une partie des électeurs du Rassemblement National qui ont envie que le Rassemblement National reste un petit peu Front National. Donc quand vous avez une déclaration de Jordan Bardella qui dit par exemple que bien entendu l'abattage rituel, donc juif, musulman, ne sera pas remis en cause en France, il faut quand même le lendemain envoyer des petits signaux que le Rassemblement National reste quand même un petit peu Front National. Donc voilà, c'est subtil. Hein. Donc ce genre de petites mesures qui, c'est Marine Le Pen qui dit, ne concerne que quelques dizaines d'emplois. Ça va rien changer en France, cette décision. Mais c'est simplement des petits messages qui sont envoyés aux électeurs historiques pour dire, parce que c'est bien de ratisser large, mais il ne faut pas oublier les fondements non plus. Ouais. Donc c'est stratégiquement la raison pour laquelle le Rassemblement National lance un coup de temps en temps ce genre de petites phrases bien anciennes.
Coucou, c'est nous.
Bien, ouais, coucou, alors, c'est nous, voilà.
Tu es pour ou tu es contre cette mesure?
Sincèrement, elle est tellement ridicule, ça concerne tellement peu de personnes. Après, et je suis d'accord.
Tu es.
Moi, ça me gêne pas que certains emplois soient réservés à des gens sur qui on fait des enquêtes très très précises.
Bah c'est le cas. Là, on parle
voilà. de. Mais oui, c'est déjà le cas. C'est pour ça que je dis. C'est déjà le cas en fait. Je suis pas sûr que le responsable.
Donc ça n'a rien à voir avec
la sûreté, de la sécurité.
Donc ça n'a rien à voir avec la nationalité. On n'exclut pas les binationaux.
Un certain nombre de terroristes de 2015.
Bah oui, bien sûr.
Français.
Oui, bien sûr. Non, c'est pour ça. Non, mais je veux dire. Mais c'est pour dire que cette mesure, elle ne concerne que, c'est politiquement qu'elle est intéressante. C'est ce qu'elle révèle politiquement dans la difficile dédiabolisation du Rassemblement National qui, voulant ramasser trop large, peut perdre des historiques.
Allez, réserver aux citoyens français les postes stratégiques et en exclure les binationaux, ce que promet donc de faire le RN. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est choquant? Vous nous appelez au 3216. Steve est avec nous. Bonjour Steve.
Bonjour tout le monde.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Seine-et-Marne, on est à Meaux. C'est ça, Steve?
Alors, oui, c'est ça. C'est
vous
ça,
vous faites quoi dans la vie, Steve?
Alors, je suis ingénieur en maintenance.
D'accord, très bien. Est-ce que c'est logique ou choquant, cette proposition du RN?
Déjà, c'est choquant. Et je suis désolé de dire ça, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai travaillé dans le nucléaire civil et militaire.
Ouais. Qui dit civil, donc, poste stratégique. Oui, sinon
voilà, poste stratégique. Et sinon j'ai la double. Je suis un binational, donc je suis concerné.
Je peux vous demander de quelle nationalité vous êtes?
Je suis d'origine congolaise.
D'accord.
Et français,
franco-congolais. Donc franco-congolais.
C'est ça.
Ok.
Et donc, j'ai travaillé dans le nucléaire civil. Mmh. J'ai travaillé dans le projet Barracuda, qui est le nucléaire militaire, tout le monde connaît.
Ouais.
Et donc,
tout le monde non, mais maintenant on le connaît.
Comment s'est passée l'opération Barracuda? Mmh.
Ouais, voilà.
Et donc, vous n'avez rencontré aucune difficulté pour pouvoir travailler dans ce secteur?
Alors, si vous voulez, j'ai fait toutes mes études en France, hein, BTS, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on nous demande les personnes issues de l'immigration, et j'ai mes diplômes et tout, donc si je travaille dans ce secteur-là, je pense que pour une personne qui ne mérite pas, on ne le prend pas. Mais avant de rentrer, accéder, j'ai eu des enquêtes. Donc, ils enquêtent tout, ils enquêtent sur ma famille. Si j'ai même mon frère qui a un casier judiciaire, eh ben, j'ai pas accès. Mais on me dit pas pourquoi, mais il me délivre pas la carte d'accès au site. Ça, c'est déjà, c'est fait depuis la nuit des temps, hein. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand le Front National dit les postes sensibles, on dit bien sensibles parce que le nucléaire, c'est sensible, le nucléaire militaire, c'est sensible, sensible même, et les échafaudeurs, dites-moi un peu, les échafaudeurs, parce que moi, je suis dans le technique, j'étais superviseur, j'ai fait chef d'équipe jusqu'à monter donc j'ai commencé sur le terrain. Tout ce qui concerne les échafaudeurs, vous savez que...
C'est quoi les échafaudeurs?
Eh ben, les échafaudeurs, ceux c'est qui les gens les échafaudages. Donc, les équipes des échafaudeurs. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de Français, quasiment pas de Français de souche, comme le Front National tente de le dire? Bon, on va faire comment si on exclut les gens qui ont le titre de séjour, on leur donne pas les postes. Mais qui va monter ces échafaudages? Moi, j'aimerais bien qu'ils
le ça, c'est encore une autre question. Oui, mais ça, c'est une autre question. Mais bon, là, en tout cas, c'était pour ce qui concerne les binationaux. En tout cas, on a bien compris avec vous, Steve, qu'il y a déjà des enquêtes poussées. Donc, on imagine mal la raison qui pourrait motiver le fait que ce soit...
C'est politique.
Voilà.
C'est un petit message politique à la base.
Si Vladimir Poutine veut postuler pour être directeur général de l'armement en France, je pense qu'on lui dira non.
Donc oui, parce qu'il n'a pas la double nationalité, donc ça va être compliqué. Agnès, à ma connaissance. Agnès est avec nous au 3216 et merci à Steve de nous avoir appelé depuis Meaux. On est à Bordeaux cette fois. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour.
Merci
bonjour,
de nous rejoindre dans Estelle Midi. Agnès, cette idée du Rassemblement National, exclure les binationaux de certains postes à haute responsabilité, vous trouvez ça logique, choquant?
Alors, dire choquant, ce serait trop dire. Choquant, ce n'est pas être juste parce que ça se fait déjà, même si ça ne se dit pas pour certains postes de souveraineté. Ça se fait déjà. On parle de binationalité, on dit bien que la personne a deux nationalités et qu'elle a des droits et des devoirs vis-à-vis de deux pays. Donc, c'est un peu délicat, je dis bien, pour des postes qui relèvent de la souveraineté de l'État. c'est-à-dire avec pour les fonctions régaliennes comme la défense, la diplomatie, le nucléaire, comme disait Steve tout à l'heure.
Mais Agnès, malgré tout, on l'entend, on parle de poste à haute responsabilité, on l'imagine né, et on le sait, parce qu'on en a parlé, et qu'il y a des enquêtes très approfondies qui sont faites. J'imagine que si quelqu'un, aujourd'hui, a un poste à haute responsabilité, très haute responsabilité dans la défense, par exemple, et que cette personne est franco-russe, au vu des développements de ces derniers mois, de ces dernières années avec la Russie, j'imagine que cette personne, elle a été mise de côté, enfin, elle a pu, en tout cas, si ça se justifie, elle pourrait être mise de côté, on lui confiera un autre
poste. C'est logique quand même.
Ça paraît logique.
Ça paraît logique.
Ah oui.
Et même quand on est, alors on a vu qu'il y a souvent des trahisons, même dans les histoires du nucléaire, généralement, on voit qu'il y a des comment on appelle ça? J'allais dire intrus, mais c'est pas le mot juste.
Oui, des gens qui passent à l'ouest, des gens qui passent à l'est. Oui,
voilà. Donc,
il y a des gens qu'on peut retourner, des gens 100% d'une nationalité qu'on peut retourner.
On peut aussi retourner, mais déjà, au moins la garantie au-delà de l'enquête minutieuse qui est faite, que la personne soit exclusivement française. Je sais pas si ça se dit.
Vous avez trop regardé le bureau des légendes, hein. Exclusivement française, je suis exclusivement française. Je suis 100% française. Et un franco-russe, il sera 100% français. Il est pas que français, mais il est 100% français. Et, excusez-moi, mais on a des monocitoyens, c'est son histoire, c'est peut-être pas sa réalité.
Oui, mais on a le droit
quotidienne.
De regarder un petit peu en ce moment.
Non, mais on a le droit de regarder.
Je suis désolé.
De toute façon, c'est ce qui est fait. Là, ce que veut faire le RN, c'est simplement poser un principe de départ. Voilà, vous êtes d'une nationalité, certains postes, vous y accédez pas. Mais bon, c'est symbolique. C'est très symbolique. C'est très symbolique, mais on sait bien que, de toute façon, d'office, pour ce type de poste, c'est fait. Encore une fois, comme je prenais l'exemple d'un franco-russe, qui aura encore des attaches en Russie, ou voilà, et on... J'imagine qu'on l'écarte assez sans se poser trop de questions lorsqu'il a un poste.
Parce qu'on peut imaginer que sa famille pourrait recevoir des pressions là-bas.
Exactement. Allez, on vous a posé la question, réservé aux citoyens français, les postes stratégiques et en excluant les binationaux, c'est logique, c'est choquant, Paul.
Eh bien, pour ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux, c'est logique pour 79% d'entre eux.
Comme quoi,
c'est
comme
de
quoi.
C'est de pas savoir ce que c'est.
Allez, on n'arrête pas le progrès dans un instant avec Anthony Morel. Devenir immortel.
Oh non.
Grâce à l'intelligence artificielle, ça va être possible. Si. C'est tout de suite dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story. Et si Fred, tu es un immortel, tu vas devenir immortel.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et comme tous les jours, à cette heure-là, Anthony Morel est là.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Salut, pardon, je vais casser un peu l'ambiance, mais bon.
On va parler d'immortalité.
Ouais.
L'IA va-t-elle nous permettre d'atteindre une forme d'immortalité numérique, Anthony? Tu nous racontes l'histoire assez folle d'un Allemand qui est atteint d'une maladie incurable. Il a décidé d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour créer un double virtuel pour que sa femme puisse continuer à discuter avec lui après sa mort.
C'est ça. Il s'appelle Michael Baumer, ce monsieur. Il a 61 ans. Il lui reste plus que quelques semaines à vivre, si on en croit les médecins en tout cas. Et c'est un ami à lui qui travaille dans une entreprise d'intelligence artificielle qui lui a fait cette proposition. Il lui a dit, si tu crées un double de toi-même, une réplique vocale et une réplique de ta personnalité pour que tes proches, pour que ton épouse puisse continuer à discuter avec toi une fois que tu seras disparu, tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, il y a des services qui proposent ça aujourd'hui, notamment un service qui s'appelle Eternos Life. C'est payant, ça coûte très cher, hein, ça coûte 5000 euros quand même. Pour se faire son double virtuel. Donc, première étape, on te demande de prononcer plusieurs centaines de phrases, tu vois, pour qu'on ait toutes tes intonations et qu'on puisse ensuite cloner ta voix, mais dans tous ses détails, si tu veux. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est qu'on va aussi essayer de cloner ta personnalité. Donc, on va te poser plein de questions. Encore une fois, à l'oral, tu réponds
des
sur ta vie.
De personnalité, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, sur, tu vois, ton enfance, tes idées politiques, ton morale, etc. Pour que, en fait, une fois que tu es mort et qu'on continue à discuter avec toi comme avec un assistant vocal.
Ça te ressemble.
Bah, voilà. que ce soit hyper cohérent avec la personne que tu étais. Et donc, bah voilà, ce double virtuel, il existe aujourd'hui. Le monsieur est toujours vivant, mais il a testé déjà ce double qui, visiblement, plaît beaucoup à son épouse. Son épouse est contente, veut qu'une fois qu'il est mort, il puisse continuer à lui réciter des poèmes et à lui donner son avis sur les choses de la vie courante, en fait, tout simplement. Donc, il pourra continuer à discuter.
Enfin, reste
il pourrait débrancher à un moment, éventuellement. Ça tue peu aussi. Hein.
Reste comme souvent avec l'IA, enfin, là, c'est vertigineux. Ça veut quand même dire que on va créer une sorte d'attachement avec un être virtuel.
Ah, c'est ça. Ça, c'est la boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir. Alors, moi, je suis pas psy, hein, donc je suis pas là pour dire si c'est bien, c'est pas bien. Les promoteurs de cette technologie, ils disent, bah, en fait, ça fait partie du travail de deuil. C'est pas pire que de regarder des vieilles photos.
Ça empêche.
Bah non, ça empêche. Voilà, ça empêche le travail.
Moi, si tu me demandes mon avis, je te dirais plutôt ça. Il y a des psychologues qui, effectivement, disent, ça va empêcher le processus du deuil parce que t'es toujours rattaché à cette personnalité virtuelle avec laquelle tu continues de discuter. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'en sait rien en réalité. On n'a pas assez de recul technologique. Ces technologies sont trop nouvelles et il va falloir attendre probablement plusieurs années pour en mesurer toutes les conséquences. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu le vertige.
Et puis quoi qu'il arrive, ça va se multiplier ce type d'expérience dans les années qui viennent. Parce que là, moi, je suis en train d'imaginer, tu pourrais aussi créer, allons-y, un être virtuel.
Ah ben exactement.
Parce qu'aujourd'hui, on sait que les robots sont de plus en plus humanisés.
Ça peut être un robot ou ça peut être un hologramme aussi, si tu veux aller plus loin dans le réalisme. Alors ça existe aussi. Il y a tout un business qui est en train de se monter autour de ça, évidemment. Et donc, tu as notamment un outil qui s'appelle Rememory. Et alors là, c'est plus seulement un assistant vocal, c'est qu'on va générer, en fait, à partir de ton image, un double numérique comme une sorte d'hologramme ou de double. Alors, c'est assez spectaculaire, hein, pour le coup. Dans une chambre mémorielle, tu vas pouvoir discuter avec la personne décédée de manière extrêmement, extrêmement réaliste. Là, encore une fois, on est au tout début. Ça va continuer à se développer. Ça va continuer à devenir de plus en plus réaliste. Donc, je sais pas où on en sera dans 5, 10, 15 ans, mais ça fera peut-être partie de la vie, finalement, d'avoir son double numérique qui nous donnera une forme d'immortalité.
Il y a un épisode de Black Mirror, comme ça, où une jeune femme fait revenir son mari défunt, son jeune mari défunt, sous forme d'un robot, enfin, d'un humanoïde.
C'est exactement
et
ça.
Et elle finit par le jeter d'une falaise, quand même. Elle supporte pas.
On verra ce que fait cette dame.
Allez. Demain, tu es là, on parle de quoi demain?
Demain, on sera un mois des JO, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Toujours
pas nettoyée.
Oui, apparemment. Hein. Mais je vais te parler d'une porteuse de flamme extraordinaire. Elle a porté la flamme olympique par la simple force de sa pensée.
Non.
Ouais, incroyable.
Bon, formidable. On en parle demain. Allez, dans un instant, on va parler de la sécurité routière. Pour sauver des vies, faut-il rétablir la perte de points pour les petits excès de vitesse? C'est ce que réclame la prévention routière. Vous nous appelez au 3216. Et dans un instant, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.